La paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bien-aimés, bonsoir. Je voulais qu'on partage ensemble ce moment d'enseignement pour parler d'une chose qui est d'actualité et qui le sera pour longtemps. Le thème de l'enseignement aujourd'hui, c'est famille recomposée et marche avec Jésus-Christ. Je pourrais même raccourcir la chose. Pour notre confort à tous, pour notre confort à tous, on va dire famille recomposée en Jésus-Christ. Parce que il y a des familles recomposées depuis très longtemps, mais qui ne connaissent pas Dieu. Et elles ne fonctionnent pas comme les familles recomposées qui connaissent Dieu. Alors, pourquoi parler de famille recomposée? Il est un fait. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ récupère un être humain, le plus souvent, excepté quand il a pris cet être humain depuis le bas âge et l'a amené très rapidement dans le service à Dieu, c'est un être humain qui a déjà un passé. Et puis, quand on va regarder le passé, ce passé fait qu'au moment où il entre dans le service à Dieu, au moment où il rencontre Christ, au moment où il a, n'est-ce pas, sa délivrance et tout ce qui va avec, il a une histoire. Et dans cette histoire, il y a des mariages ratés, il y a des catastrophes, il y a de mauvaises rencontres et il y a beaucoup d'autres compartiments de ce type. Lorsqu'on a eu la grâce de connaître Christ, d'être né de nouveau pour parler le langage des uns et des autres, souvent, on reçoit la grâce de la restauration. Parce que parfois on était dans de mauvais mariages, ou parfois on était dans quelque chose qui ressemblait au mariage, mais qui était surtout un enfer, et dit, il n'y avait aucune chance que Dieu soit là-dedans. On a la grâce de la restauration, après les grâces des délivrances, après les grâces des guérisons. Il y a les grâces des différents niveaux et des différents types de restauration. Parmi les restaurations que nous avons, et parmi même les élévations que nous avons les mariages. Alors, beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants, beaucoup d'adorateurs se retrouvent dans des familles recomposées. Et ce n'est pas parce que c'est Dieu qui est derrière ce mariage que tout est offert. Il y a du travail. Il y a du travail. Dieu fait sa part, nous nous faisons notre part. Et c'est là où, véritablement, il y a un savoir-faire et une ingénierie qui est fondamentale, importante à relever. C'est quoi une famille recomposée? D'un point de vue définitionnel, on pourrait appeler famille recomposée toute famille qui est le résultat de ce que, lorsque vous entrez dans un nouveau mariage ou dans un mariage, parce qu'on peut dire nouveau si vous avez eu à divorcer avant, parce que vous étiez dans un mariage où Dieu a vu que si vous le laissez là-bas, vous allez mourir. Soit vous entrez dans un mariage, c'est-à-dire que c'est votre premier mariage et sera le dernier parce que vous allez rester là-bas jusqu'à la fin, pour le meilleur et pour le pire. Donc vous entrez dans un mariage où soit l'homme a un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus de ce mariage, soit la femme a un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus de ce mariage, ou encore les deux viennent dans le mariage, chacun avec des enfants, un ou plusieurs enfants, qui ne sont pas aussi issus du mariage dans lequel vous êtes. Cette problématique est une problématique très sérieuse parce que la question des mariages recomposés est une question mal évaluée, sous-évaluée, mal diagnostiquée, mal analysée, mal lue, mal interprétée. La problématique de la construction de la paix, de l'harmonie et de l'épanouissement des membres dans les familles recomposées n'est pas assez comprise et n'est pas assez traitée. Or, c'est une source extraordinaire de souffrance, c'est une source importante de divorce, c'est une source importante de crimes, c'est une source importante de douleur, d'humiliation, de frustration, de déception, de désillusion et de perdition. À partir du moment où ce problème est soulevé par le Créateur lui-même, il faut savoir qu'il a eu le temps de faire une lecture statistique pour se rendre compte que si ce n'est pas réparé, ses enfants vont souffrir trop. Si ce n'est pas traité en profondeur, ses enfants vont souffrir trop. Lorsque l'homme et ou la femme vient dans un mariage avec un ou plusieurs enfants, il y a déjà là-dedans des dimensions affectives, des dimensions historiques qui sont à intégrer. Les rapports qui existent entre cet enfant et l'autre parent qui n'est pas le conjoint dans le foyer, les rapports qui existent entre le parent de cet enfant et l'autre parent qui n'est pas dans le foyer, et les rapports entre le conjoint qui est dans le foyer et l'autre parent qui n'est pas dans le foyer. Je suis obligé d'y aller graduellement comme ça parce que ça peut vraiment chauffer. Il faut regarder tous ces compartiments. J'y vais au cas par cas pour que vous vous rendiez compte que l'affaire est complexe. Et je vais me laisser tomber à vous donner le maximum pour que vraiment vous soyez à l'aise. Je viens là de tracer trois variables. La variable des rapports entre l'enfant qui n'est pas issu du foyer et l'autre parent, l'autre conjoint. Non, l'autre parent qui n'est pas conjoint, puisque c'est un mariage. Maintenant, il y a deux conjoints. Maintenant, il y a un enfant, papa. L'autre géniteur, si on va dire ça comme ça. L'autre géniteur qui n'est pas de ce foyer. J'ai parlé de cette variable. La variable entre le conjoint qui est dans le foyer et l'autre géniteur qui n'est pas dans le foyer. La troisième variable, les rapports entre le conjoint qui est dans le foyer, qui n'est parfois ni qui n'est pas le géniteur de l'enfant dans le foyer ou des enfants de l'autre dans le foyer. Quand vous regardez déjà les paramètres que je suis en train de relever, vous vous rendez compte que la problématique est complexe. Quand vous entrez dans un foyer et que vous avez un enfant qui n'est pas l'enfant du conjoint que vous avez épousé. Au départ, quand vous vous entrez dans le foyer, parce que le Seigneur vous a béni et le Seigneur estime que vous êtes compatible sur le plan spirituel, il y a les éléments de compatibilité psychologique, affective et même physique, parce qu'il y a des gens qui ont parfois des problèmes d'incompatibilité physique quand les autres compatibilités sont établies. Parmi les compatibilités, il y a même des incompatibilités sexuelles. Mais on va pas approfondir la question comme ça aujourd'hui, puisque ce n'est pas le sujet. Lorsque vous entrez dans un foyer et vous construisez ainsi, vous fondez un foyer de famille recomposée, vous devez développer la hauteur, l'épaisseur, la densité, le recul nécessaire pour pouvoir manager des choses complexes. Ce dossier que nous sommes en train de soulever, cette question, cette problématique que nous sommes en train de traiter, est d'autant plus importante qu'il y a des centaines de millions de personnes à travers la planète qui, grâce au Père éternel, grâce au Seigneur Jésus-Christ, vont retrouver l'équilibre qu'ils avaient perdu, soit en se mariant enfin, soit en entrant enfin dans un bon mariage selon Dieu. Et ils se retrouvent à porter le poids de l'histoire. Ce n'est pas parce que le père de l'enfant que tu as était un démon, était un bandit, était tout ce qu'il était qui n'était pas bien, qui a fait que vous avez rompu, que tu vas tuer l'enfant. Non. Que tu vas oublier l'enfant, que tu vas écarter l'enfant de ta vie. Ce n'est pas parce que la mère de l'enfant que tu as était une criminelle, était, il y a beaucoup de était qu'on peut faire, que tu vas jeter ton enfant. C'est ton enfant, c'est ton sang. Donc la question est très sérieuse. C'est la question de la gestion du passif. Beaucoup de personnes ont commencé à se marier au niveau international dans ce ministère l'année dernière. Dans plusieurs pays, il y aura encore beaucoup de mariages cette année et il y aura encore beaucoup de mariages l'année prochaine. Et beaucoup de personnes vont se retrouver dans une configuration de foyers et de mariages recomposés, de familles recomposées. J'étais encore dans les prolégomènes pour planter le décor parce que véritablement, il faudrait que les uns et les autres se rendent compte que cette problématique est tellement vivante, tellement incontournable qu'il vaut mieux qu'on la traite de fond, de face et dans le fond. Regardons d'abord le premier axe des rapports qui a, et ça j'ai oublié un quatrième axe, excusez-moi, et même un cinquième. J'ai donné l'axe des rapports entre l'enfant et le géniteur qui n'est pas dans le foyer. Les rapports entre le parent de l'enfant et l'autre, le géniteur qui n'est pas dans le foyer, donc l'ex qui est à l'origine de cette naissance. Le rapport entre l'autre conjoint qui est dans le foyer et le géniteur. J'ai oublié les rapports entre l'enfant et son parent même, son géniteur qui est dans le foyer. Et enfin, le rapport qu'il y a entre l'enfant et l'autre conjoint qui n'est pas son géniteur. Voilà cinq axes que je tenais à faire pour la lecture géométrique de la question. Vous voyez dès l'introduction, parce que je prends le temps à introduire, vous voyez dès le départ que la problématique est complexe. Ce n'est pas un sujet facile. Il faut lire. Il faut lire ces schémas pour comprendre que quand on est dans une famille recomposée, il y a un travail à faire. Sauf qu'on ne fait pas ce travail seul. On a le privilège d'avoir Jésus-Christ, on a le privilège d'avoir l'Esprit Saint et la donne change à partir de là. Je vais commencer par quelque chose que les adultes ne savent pas généralement. L'enfant qui arrive dans un foyer où l'autre conjoint n'est pas son père et où l'autre conjoint n'est pas sa mère, est un enfant qui a son historique, a ses affects, surtout s'il est arrivé étant déjà un enfant bien conscient, pas un bébé. Il avait des préférences. Peut-être que l'autre parent, enfin, l'autre géniteur qui n'est pas dans ce foyer est encore vivant, il a des rapports avec lui, il a un passé à gérer avec lui, il y a un contact à gérer avec lui. Cet enfant-là est d'abord une menace considérable. Pourquoi? Si l'enfant a estimé que son géniteur qui n'est pas dans le foyer qui a été fondé le traitait bien, l'arrivée d'un autre géniteur lui pose problème. Et il risque de le combattre. Premier cas de figure. Si l'enfant arrive dans une situation où la manière dont son géniteur qui est dans le foyer le traitait avant, n'est-ce pas, l'arrivée du conjoint qui a permis d'établir le mariage, le traitait d'une certaine façon. Si l'arrivée du conjoint, que ce soit l'homme ou la femme, modifie les rapports, la communication, l'autre conjoint qui n'est pas son géniteur, il va encore le combattre. Donc, que ce soit une femme ou l'homme, qui est l'autre conjoint qui n'est pas son géniteur, un enfant de 4 ans, entendez très bien ce que je vais vous dire. Un enfant de 4 ans est capable de vous organiser le divorce et réussir la procédure sans savoir que le mot divorce existe. Pourquoi? Parce qu'il va défendre ses intérêts personnels. Avant, quand papa rentrait, j'avais tels avantages. Depuis que l'autre mère là est arrivée vraiment, c'est maintenant elle qui le reçoit et qui prend les choses. Lui, il a son petit angle de vue, hein. Tout ce que vous faites là, c'est trop compliqué. Il a son angle depuis lequel il voit la réalité. Il a son angle depuis lequel il vit la réalité. Donc, il défend ses intérêts. Rien qu'à cause de la manière dont l'enfant ressent la chose dans ce nouveau foyer, ressent les modifications des contenus relationnels et communicationnels, il peut combattre votre foyer. Je suis encore dans la phase initiale des menaces qui se posent et qui s'imposent dans une famille recomposée. À supposer maintenant que l'enfant, en plus, de ce compartiment affectif ait des rapports avec son géniteur qui n'est pas dans le foyer et que ce géniteur ait développé de mauvaises attitudes conscientes et ou inconscientes qui puissent amener l'enfant à comparer le traitement qu'on lui accorde à l'extérieur par rapport au traitement qu'on lui accorde à l'intérieur. Exemple, son géniteur peut avoir le droit de le voir une fois toutes les 2 semaines. Quand son géniteur, qui n'est pas dans ce foyer que vous avez fondé, le voit, ou sa génitrice le voit une fois toutes les 2 semaines, qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait beaucoup de cadeaux. Entre-temps, vous qui êtes dans le foyer, vous devez gérer un budget qui permet de gérer l'enfant tous les jours. L'enfant va penser dans sa perception et son ressenti de la situation que celui qui est à l'extérieur l'aime plus que celui qui est à l'intérieur. Celui qui est à l'intérieur donne le budget tous les jours, doit gérer 1 mois. L'autre a 2 semaines pour se préparer, ou même 1 mois. L'enfant va dire que quand il va là-bas, on le traite bien, comparativement à la manière dont on le traite dedans. Alors que celui qui le gère dedans dépense plus, se dépense plus en énergie, en temps, en argent, en conseil, en expertise, en accompagnement, etc., en sécurité, etc. L'enfant n'est pas capable de faire le distinguo entre les sacrifices consentis pour l'encadrer tous les jours et la manière dont on le traite parce qu'on va le voir une fois par mois. Les effets de ce type de variables sont tels que si vous ne les comprenez pas, vous devenez victime sans comprendre ce qui se passe véritablement et sans cerner comment les choses se passent. Je ne vais pas ajouter, parce que c'est quand même réaliste, que si vous avez en plus de ça la malchance, gardons le terme entre guillemets, parce que vous savez que c'est un terme que je n'approuve pas véritablement, si vous avez la malchance ou le malheur que le géniteur de l'enfant qui n'est pas dans le foyer est vicieux. En plus de le traiter ainsi parce qu'il veut lui montrer de l'affection, qu'il lui infuse de mauvaises pensées contre le foyer ou contre l'autre géniteur, contre l'autre conjoint que vous avez dans le foyer, ça va être double impact. Impact psychologique dû, n'est-ce pas, au traitement matériel et financier. Impact mental et psychologique dû à ce que l'autre dit à l'enfant pour rebeller l'enfant contre vous et contre votre foyer. Il y a beaucoup de personnes avec lesquelles vous avez des enfants avant le mariage et qui estiment que, autant le dire comme ça, vous n'avez pas le droit de vous marier avant elles. Vous vous êtes rencontrés. Ça s'est gâté. Parfois même, c'est lui qui a exigé la séparation ou qui l'a imposé. Dieu vous montre le chemin. Vous changez de statut. Vous changez d'adresse. Vous changez de vie. Dieu vous donne le mariage. L'autre reste dire que ce n'est pas possible. Donc, elle s'est séparée de moi et elle est heureuse. Non, c'est inacceptable. Il s'est séparé de moi, il est heureux. Non, c'est inadmissible. Ça fait des jalousies, des complexes d'infériorité, sans compter le côté pervers de ce que il y a des gens avec lesquels vous avez des enfants, ou vous avez eu un enfant avant, qui soit était vicieux, du genre où, en fait, il ne vous aimait pas. Mais il aimait vous garder à côté pour sentir que ça lui fait plaisir de vous écraser. Soit, en fait, le ressenti du passé reste. C'est-à-dire que la personne est restée amoureuse malgré la rupture. Il a gardé un souvenir de quelque chose qui l'a marqué et il aimerait de temps à autre rentrer y goûter. Alors que lui-même, il a dit que c'est fini. Ce comportement, on le voit chez les hommes comme chez les femmes. Cette tendance à rentrer en arrière vers les anciennes relations, avec tous les dangers que cela représente. Je n'exclus pas, lors de cette démarche que je suis en train de vous montrer, je n'exclus pas qu'il puisse arriver, et cela peut relever véritablement de la volonté de Dieu, que parmi vos ex, quand vous trouvez Christ, L'Esprit Saint vous dise que l'autre personne que tu avais laissée, c'est ta femme. Ça arrive. Mais les compartiments et les paramètres qui permettent de construire une telle configuration sont très spécifiques et ça ne relève pas de la manière dont vous ressentez la chose ou ce que vous en pensez. Je dis que ça peut arriver. Que Dieu vous dise que ta femme, c'est l'autre là, que tu as abandonné. C'est ta femme. Maintenant, après avoir regardé ensemble le paramètre de la relation entre l'enfant et le géniteur qui n'est pas dans le foyer, le paramètre de la relation entre l'enfant et son géniteur qui est dans le foyer, qui fait qu'ils ressentent la présence de l'autre comme étant une présence ennemie, qui affecte négativement son confort et ses privilèges. Puisque de toute façon, quand vous avez déjà un conjoint, les paramètres changent. Je prends quelque chose de très simple. L'enfant, par exemple, qui sait qu'il dormait toujours avec toi dans le même lit. Maintenant, tu as un conjoint, une conjointe, il doit dormir dans une autre chambre. Tu crois que ça lui fait quoi dans son cœur ou dans son mental? Il n'est pas d'accord, hein? Il trouve que l'affaire là, ce n'est pas comme ça, hein, que ça devrait se passer. Il sent qu'on lui a pris sa place. Vous allez en rire, mais c'est vrai. C'est des petits détails comme ça. L'enfant qui savait que quand tu rentres, c'est lui qui prend les sachets que tu as en main. Maintenant, quand tu rentres, c'est madame qui prend les sachets. L'enfant dit que la femme, c'est que papa a amené vraiment. Maman, elle vient me couper l'herbe sous le pied. Même s'il n'est pas capable de formuler la chose comme je suis en train de vous le dire, il ressent la chose comme je vous l'explique. Maintenant, si vous finissez de regarder ces paramètres que je suis en train d'énoncer, qui sont liés au rapport entre l'enfant et son géniteur qui n'est pas dans le foyer, le rapport entre l'enfant et son géniteur qui est dans le foyer ou génitrice qui est dans le foyer. Vous devez savoir, je commence par le bas avant de finir en haut, parce que je dois parler du management de l'enfant avant de passer au management des rapports avec l'enfant et au management des rapports entre conjoints qui doivent manager un enfant ou plusieurs enfants qui sont dans une famille recomposée. S'il vous plaît, cette problématique est tellement complexe que ça mérite tout un séminaire d'au minimum 3 jours. Parce que imaginez la complexité de ce que cela est de gérer une famille recomposée avec 3 enfants venant d'un côté qui ne sont pas du foyer, 2 ou 3 enfants venant de l'autre côté qui ne sont pas du foyer. Imaginez les inter-influences, les inter-relations, les inter-actions qui s'activent entre ces enfants et leurs géniteurs qui sont du foyer, entre ces enfants et leurs géniteurs qui ne sont pas du foyer, entre ces enfants et leurs cadets qui sont du foyer. Sachez de toute façon que pour que ce genre d'enseignement vous soit donné, c'est parce que vous êtes particulièrement béni. Nous continuons. L'enfant, je vous disais tantôt, est capable de vous organiser le divorce tranquillement sans même savoir que le mot divorce existe. Parce que tout simplement, lui, il défend son territoire. Un enfant qui arrive dans cet inconfort, constatant qu'il ne dort plus dans la même chambre que papa ou il ne dort plus dans le même lit que maman à cause de l'autre personne qui est arrivée, commence à développer des... Un enfant qui est en train, j'étais en train de dire, un enfant qui fait une telle chose commence à développer des automatismes qui sont des automatismes dangereux, à savoir des automatismes de rejet d'autrui, parce qu'on lui a fait perdre un avantage. L'enfant va commencer à produire de mauvais rapports sur l'autre conjoint qui n'est pas son géniteur. Nous avons observé comment certains enfants se comportent, à savoir, ils s'arrangent à ce que quand l'autre conjoint qui n'est pas son géniteur rentre, sa mère et ou son père biologique reçoivent de mauvais rapports, des plaintes. On a vu des enfants de 4 ans capables de manipulation mentale à des niveaux incroyables. Je m'explique. On a vu des enfants se blesser et parfois même se blesser gravement pour que l'autre conjoint soit accusé de violence. Mais ça ne commence pas d'un coup, c'est un processus. L'enfant commence à accuser petit à petit l'autre conjoint. Oh, il a fait ceci, il m'a tapé. Non, elle m'a refusé la nourriture. Elle a fait ça. Ah, les enfants. L'enfant manipule son géniteur, son père biologique ou sa mère biologique, et pendant qu'il est en train de le manipuler ainsi, il minorise l'autre conjoint qu'il ne veut pas. Au fur et à mesure que le processus se construit, je ne vous parle, je ne spécule pas, je ne vous parle que de ce qui est vécu dans les foyers. Au fur et à mesure que l'enfant construit son piège, ce n'est pas une affaire de sorcellerie. Parce que si on y ajoute la sorcellerie, ça va être plus compliqué. Je vous parle de pratiques de la psychologie et des usages en famille. Un enfant, à travers seulement sa petite intelligence, installe ce malaise-là graduellement jusqu'à ce que, petit à petit, l'autre conjoint qui n'est pas son parent constate que son bourreau dans la maison, c'est l'enfant. Tu vas accuser un enfant de 5 ans, comment? De monter les coups contre toi. On va dire que ce que tu racontes là n'est pas vrai. Mais l'enfant de 5 ans est en train de monter les coups contre toi et ça marche bien. C'est ton adversaire dans la maison. Ton mari ne comprend pas l'affaire. Ta femme ne comprend pas l'affaire. Si vous n'avez pas l'habitude, et c'est là où je vais entrer, d'avoir du recul pour dialoguer avec le conjoint, l'enfant va vous battre en aller-retour, vous saccager, vous massacrer. Vous allez comprendre seulement l'affaire trop tard. En d'autres termes, si véritablement vous êtes dans une famille recomposée, vous devez traiter avec la plus grande délicatesse, avec du recul, avec mesure, les déclarations des enfants, surtout contre le conjoint qui n'est pas son père biologique ou contre le conjoint qui n'est pas sa mère biologique. Je passe même, n'est-ce pas, les ressentis dus au fait que quelqu'un regarde l'enfant en disant que ce n'est pas mon enfant. Je suis seulement marié avec lui, je suis seulement marié avec elle. Je passe cette étape-là. Il y a beaucoup de couples qui se perdent et se détruisent comment? À partir du moment où l'enfant que la femme a amené, ou les enfants que la femme a amenés dans le foyer, l'enfant que le mari a amené, ou les enfants que le mari a amenés dans le foyer sont tes enfants, tu es leur père. De fait, tu es leur père. Même si tu n'es pas leur père biologique, tu es leur père. C'est vrai et vérifiable. Ils sont sous ta responsabilité. Même si tu n'es pas leur mère biologique, tu es leur mère. Ils sont sous ta responsabilité. À partir de là, l'autre conjoint, qui est le père biologique ou la mère biologique de l'enfant, doit te donner les droits d'éducation sur cet enfant dans les automatismes les plus basiques. Ce que je vous dis est d'autant plus complexe que beaucoup de parents commettent l'erreur dès qu'ils sont dans le foyer. Un, lorsque l'enfant dit quelque chose contre l'autre, de ne pas vérifier. Deux, lorsque l'enfant dit quelque chose contre l'autre, de mettre l'autre au tribunal. L'enfant accuse ton mari, l'enfant accuse ta femme. Au lieu d'examiner la chose avec recul, tu accuses ta femme sur la base de ce que l'enfant a dit, ou tu accuses ton mari sur la base de ce que l'enfant a dit. Je vais continuer dans cet axe. L'axe qui veut qu'il faille manager l'enfant est un axe où il faut du recul et il ne faut pas toujours gérer les choses de manière émotive, avec des tendances émotionnelles explosives. Si par exemple ton conjoint punit l'enfant, peu importe le type de punition, ce n'est jamais, je suis en train de vous donner des principes que Dieu lui-même m'a enseignés pour votre confort, Ça ne doit jamais être devant l'enfant que tu vas protester par rapport à une punition. On a vu dans plusieurs foyers, tu mets l'enfant quelque part, que plante les choux, sa mère revient et dit que, lève-toi, elle annule la punition du mari contenant l'enfant là sur le champ et ainsi arrache, pardon, refuse au mari l'autorité sur cet enfant. Mais qu'est-ce que cela signifie? L'enfant comprend que c'est lui qui a l'autorité sur ton mari. Parce qu'il y aura d'autres occasions, il va comprendre que pour avoir raison, il suffit que lui l'accuse ton mari. Tu vas le défendre. Il est plus important que ton mari. À l'inverse, de l'autre côté, en parallèle d'ailleurs, si ta femme a puni votre enfant, ton enfant que tu n'as pas eu avec elle, tu n'as pas le droit de venir la réprimander devant l'enfant de la punition. Tu dois lui dire, par exemple, quand vous êtes seulement vous deux, que vraiment, peu importe comment tu appelles ta femme, mon bébé, ma chérie, mon nounours, vous avez tous les noms. Moi, je ne veux pas entrer là-bas. Tu dis que vraiment la punition a été très sévère. Il faut souvent choisir d'autres punitions. On a vu des enfants subir des punitions parce que ils maltraitent la conjointe ou le conjoint en face, au point où le conjoint en face finit par réagir, une réaction de défense, mais une réaction de défense que le géniteur de l'enfant, le père biologique ou la mère biologique ne peut pas comprendre, puisque le père biologique ou la mère biologique ne comprend pas que cette réaction est due à une accumulation. Ça fait longtemps que l'enfant est en train de lui faire ça. Ton mari est avec toi. Ton enfant te manipule et isole ton mari de plus en plus en lui faisant du mal dans ton dos et toi-même tu es complice. Tu viens même en rajouter. Ta femme est là. Ton enfant te manipule et isole ta femme petit à petit. Se comporte mal. Tu ne donnes pas à ta femme le droit de gronder ton enfant. Tu ne donnes pas à ton mari le droit de redresser ton enfant. Et quand vous faites ce genre de choses, vous oubliez quelque chose de très simple. L'éducation d'un enfant n'est pas une chose que on peut balayer. Ce qui confère à un être humain son humanité, c'est l'éducation qu'il a reçue. Ce n'est pas l'apparence physique de l'homme. L'éducation qu'un enfant reçoit est la continuité de la conception. Qu'est-ce que je veux dire? Il faut un homme et une femme pour concevoir un enfant. Il faut un homme et une femme pour élever un enfant. La femme ne peut pas, qui qu'elle soit, même si elle est professeure agrégée de psychologie, de sociologie, d'anthropologie, d'ethnologie, de philosophie, peu importe. La femme ne peut jamais jouer, même si elle se retrouve factuellement en train de jouer les deux rôles. Elle ne peut jamais jouer le rôle de l'homme, plus jouer le rôle de la femme. Elle ne peut jouer que le rôle de la femme. Elle ne pourra jamais jouer le rôle de l'homme. L'influence que l'homme a sur la femme, l'influence que l'homme a sur l'enfant, l'influence que la femme a sur l'enfant et l'influence que la femme a sur l'homme sont des influences qui sont toutes indispensables dans la construction de la famille et dans l'édification d'une humanité citoyenne, dans la construction d'une identité concitoyenne. Un enfant qui a grandi sans son père, ça se voit dans son comportement. Un enfant qui a grandi sans un homme, ça se voit, un homme pour le recadrer. Un enfant qui a grandi sans une femme pour l'attendrir, ça se voit. Donc, aucun homme ne peut se permettre de croire qu'il va élever l'enfant de manière à ce que l'enfant soit totalement équilibré. Il a besoin de l'influence de la femme sur l'enfant. Aucune femme ne peut se permettre de se comporter comme si l'influence de l'homme et l'éducation que l'homme a donnée à un enfant n'est pas indispensable. C'est faux. Archi faux. Faites les études de psychologie, de sociologie, allez où vous voulez, en anthropologie, en ethnologie, tout ce que vous voulez. On va vous démontrer ça. C'est scientifiquement prouvé. À partir de ce moment, il faut quand même avoir donc le réalisme. Qui veut que la femme qui est venue dans le foyer avec son enfant ou ses enfants L'homme qui est venu dans le foyer avec son enfant ou ses enfants doit donner la place d'honneur à l'autre conjoint qui n'est pas le père biologique et ou la mère biologique de cet enfant ou de ses enfants. Si vous commettez l'erreur de contester l'autorité de votre conjoint, de conjoint devant l'enfant, ce que vous êtes en train de créer là va être très compliqué. Vous formez chez l'enfant un rebelle et vous êtes en train de détruire votre foyer. C'est extrêmement important à comprendre, à savoir. Donnez toujours à l'autre conjoint avec qui vous êtes marié la place de père ou la place de mère à l'enfant avec lequel vous êtes venu. Parce que cet enfant a besoin de l'éducation qui vient de l'autre conjoint, plus de l'éducation qui vient de celui que vous avez quitté ou de celle que vous avez quittée. Il y va de l'harmonie de votre foyer. Si vous ne comprenez pas la profondeur, la gravité de cette question et la mécanicité qui est inhérente, vous allez devenir des victimes dans cette affaire. Maintenant, dans l'ingénierie qui est liée à cette affaire de construction de l'harmonie dans le foyer, il est très important d'intégrer les contre-mesures. La première contre-mesure, c'est que vous ne pouvez pas construire une vie de foyer, de couple, qui plus est encore, dans une famille recomposée, si vous et votre conjointe, vous n'êtes pas des amis. Si vous n'êtes pas des amis, si vous n'avez pas pris le soin de parler de vous, de partager entre vous, jusque-y compris sur le passé là va vous rattraper et venir vous massacrer. Il faut se connaître, il faut parler, il faut dialoguer. On ne construit pas d'amitié sans passé. Le passé doit s'assumer. Ton conjoint ou ta conjointe doit savoir les blessures que tu as eues dans le passé, comme ça lui permet de savoir, ça lui permet de savoir quels sont les axes depuis lesquels il peut véritablement travailler et ou prier pour ton confort. C'est quelque chose d'important. Pourquoi? Et quand je parle de ça, je rentre dans un élément qui est fondamental. Quand vous vous séparez de quelqu'un, il faut que vous vous entendiez clairement sur les limites à ne pas traverser. Quand vous êtes séparé de quelqu'un, il ne faut pas que la personne vienne là maintenant avec un esprit de maraudeur ou de charognard ou je ne sais pas encore quoi, de rôdeur, parce que il a un enfant avec toi, il a des droits sur l'enfant, donc il a des droits sur ton foyer. C'est faux. Ce n'est pas possible. Il n'a pas des droits sur ton foyer. Il a des droits sur l'enfant, il a le droit de visite et tout ce qui va avec. Si vous êtes entendu sur le fait que l'enfant peut aller passer quelques congés, ça c'est une autre affaire. Un week-end, c'est une autre affaire. Vous devez avoir une attitude prioritaire de protection de votre foyer et donc de protection de votre conjoint. Si vous ne savez pas protéger votre conjoint, à la fois contre les ressentis de votre passé, à la fois contre les ressentis de vos relations passées, à la fois contre les ressentis et les réactions de votre enfant ou de vos enfants, il faut vous attendre, si vous ne savez pas protéger votre conjoint, à ce que ça se gâte. Les femmes sont très émotives. On connaît les schémas qui veulent généralement que, bon, tu es avec une femme. Elle est venue avec un ou plusieurs enfants. Tu grondes l'enfant, elle se fâche. Oui, c'est parce que ce n'est pas ton enfant que tu lui parles comme ça. Tu avales la salive. Quand tu prends une décision pour l'enfant, même quand la décision est bonne, elle perçoit ça d'abord de manière à juger de la qualité de l'acte que tu as posé sur le présupposé qu'il veut initialement, que de toute façon, comme ce n'est pas ton enfant, Cet enfant n'est pas sorti de ton ventre. Tu ne l'aimes pas comme il faut. Je parle de cet axe parce que c'est un axe très facile. Encore que beaucoup de femmes, même quand elles sont déjà en Christ, et c'est quelque chose qu'il faut absolument combattre, sont des femmes querelleuses. C'est une combinaison incroyable entre le fait que vous n'avez pas encore la stabilité, que l'enfant veuille défendre son territoire, vous n'êtes même pas encore des amis, et la femme a une grande gueule. La parole de Dieu dit dans Proverbe 21 à verset 9 et Proverbe 27, verset 15 à 27. Je redonne le passage. Proverbe 21, verset 9. Proverbe 27, le verset 15 à 27. La parole de Dieu dit que les hommes n'aiment pas les femmes querelleuses. Si vous voyez que la Bible attaque cette problématique, un livre qui a été écrit depuis des millénaires, ou qui a été pensé depuis des millénaires, il faut imaginer que Dieu a une très longue expérience dans l'observation des rapports interindividuels dans les comportements humains. Un scénario où la femme est querelleuse et l'enfant est venu organiser le divorce, mais vous allez vous retrouver en enfer en quelques mois. Au bout de 2 ans maximum, vous allez demander le divorce. Donc, vous devez comprendre, quand vous êtes dans la construction d'un foyer, selon Jésus-Christ, que la parole de Dieu a déjà traité d'un certain nombre de questions. Dieu est contre le fait que les femmes soient querelleuses. La parole de Dieu a donné ses commandements. Éphésiens 5, le verset 22 dit, Femmes, soyez soumises à vos maris. Éphésiens 5, le verset 25 dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il y a quelque chose que je voulais dire. Lorsque je forme les hommes, j'insiste à leur dire que les femmes doivent être traitées avec douceur, avec tendresse. Ce sont des enfants qu'il faut éduquer, qu'il faut mouler. Je leur demande même d'avaler des couleuvres, de digérer. Mais la question que je voudrais poser, mais j'ai déjà la réponse, tandis que les hommes doivent absolument, parce que moi je suis très dur envers les hommes dans cette affaire, ceux qui ont suivi les différents séminaires et formations savent que je ne peux pas louper les hommes sur cette affaire. Il faut que les hommes apprennent à être tempérés vis-à-vis des femmes, mesurés vis-à-vis des femmes. Parce que la femme ressent avant de réfléchir. C'est comme ça qu'elle a été conçue. Elle ressent. Quand tu dis une chose à la femme, ne sois pas sûr que ce que tu as dit, c'est ça qu'elle a compris. C'est ce qu'elle a ressenti qui compte. C'est pourquoi vous allez souvent entendre beaucoup de femmes, quand vous leur parlez, elles répondent en disant que tu veux dire que. Donc, ça veut dire, toi, tu as dit une chose simple, elle s'en va réinterpréter. La réinterprétation, elle est très dangereuse. La réinterprétation, c'est ce qu'elle a ressenti. Donc, tu peux dire A, elle a entendu D. Donc, vous n'êtes plus dans le même logiciel communicationnel. Les hommes doivent, j'insiste là-dessus avec la plus grande rigueur, faire preuve de beaucoup de minutie vis-à-vis des femmes, de tempérance. Quand tu prends une femme, elle a un passé. Elle a vécu parfois beaucoup d'injustices avant que vous soyez ensemble. Et ce n'est pas parce que Dieu te l'a donné que les blessures du passé sont déjà réglées. Tu dois t'arranger à la traiter avec la plus grande tendresse, la plus grande douceur, l'attention la plus intense possible. Et tu dois supporter ces écarts de comportement en sachant que petit à petit, tu vas dialoguer avec elle et elle va comprendre. Mais quand la parole de Dieu dit que femme, soyez soumise à vos maris, et qu'une femme, dès que tu lui dis, c'est même pas que tu lui as fait un reproche, hein, tu lui fais une remarque, tu ne parles pas de reproche. Elle s'énerve même là quand tu lui as fait une remarque. Quand tu vas lui faire un reproche, on va arriver. Elle va même te gifler. Ou bien le jour-là, on va te faire le tourne-dos aux champignons. Ou bien on va même te dire que comme tu l'as énervé aujourd'hui, on ne prépare pas. Les femmes qui ont l'habitude de réagir mal aux plus petites remarques qu'on peut leur faire, à plus forte raison les reproches, puisque les reproches ont leur sens. Est-ce qu'elles ont lu Éphésiens 5, le verset 22, qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Je pose encore la question autrement. Quand on dit aux hommes « Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église », est-ce qu'ils ont compris la profondeur de ce que ça veut dire aimer? C'est un sacrifice. Et j'appuie Éphésiens 5, le verset 25, en disant ceci aux hommes. Allez méditer 1 Corinthiens 13. Ça va vous permettre de savoir jusqu'à quel point il faut supporter. Parce que beaucoup d'hommes ont l'habitude de croire que les femmes raisonnent comme eux. Et moi, on me chauffe la tête presque tous les jours avec ça. Oh, vraiment, Excellence, moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas les femmes. Moi, je ne comprends pas. Comment je lui explique un truc simple, elle ne comprend pas. Mon ami, mais elle a ressenti. On t'a dit qu'elle a compris. Elle n'a pas interprété ça comme toi. Son cerveau n'est pas comme le tien. Vous ne ressentez pas la réalité de la même manière. La femme voit de petits détails que l'homme ne voit pas. D'un point de vue configurationnel même, c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a de petites choses que les femmes voient et que les hommes ne verront jamais. Quand tu es avec une femme quelque part, elle voit toujours des trucs que toi, tu n'as pas vu. Mais parce qu'elle a été configurée différemment de toi. Toi, tu as un regard panoramique. Elle a un regard très détaillé. Et son regard détaillé, là, n'est pas toujours un avantage. Donc, les hommes, pour l'affaire de gérer le foyer, rentrez méditer 1 Corinthiens 13. C'est un conseil que je vous donne. Si vous savez que je suis votre père, rentrez. Quand vous finissez de lire Éphésiens 5, verset 25, rentrez méditer 1 Corinthiens 13. Parce que certains d'entre vous n'arrivent pas encore à supporter leur femme comme Dieu a prévu. Il faut supporter les enfants. Il faut supporter. C'est le bébé, hein? Ce n'est pas parce qu'elle est grosse là, avec les formes qui te. Tout ça. C'est le bébé. Même si elle a le doctorat, c'est seulement le bébé. Accepte. Mais la question que je voulais poser aux femmes, c'est ça, c'est là-bas où je voulais passer aussi. Parce qu'elles sont traumatisantes quand on les regarde faire. Quand la parole de Dieu dit que les hommes n'aiment pas les femmes querelleuses, malgré le fait qu'elle insiste sur le fait que les maris doivent aimer leurs femmes. On a dit aux femmes que l'homme aussi n'a pas de cœur. Ou bien on leur a seulement dit d'aimer sans cœur. Ou bien à la place du cœur, là, il a le caillou. Ou une pierre. Ou bien c'est du fer. Ou bien peut-être c'est de l'azote liquide. Les femmes ne supportent pas qu'on leur parle d'une certaine façon. Mais c'est elles qui ont le droit de dire tout et n'importe quoi à l'homme. Au moindre virage. C'est quoi? Donc lui aussi, il ne ressent pas. Le cœur de l'homme à qui on a dit que aime ta femme là, c'est aussi un cœur sensible. Il y a des femmes dont la spécialité, c'est demander le divorce à chaque engueulade. Il y a plusieurs façons de demander le divorce. Tu es là, dès qu'il y a un petit problème, maman, elle veut partir, elle veut rentrer chez mes parents. Souvent, tu regardes même la personne qui veut rentrer, tu ne comprends pas où elle veut rentrer. Tu connais la situation, c'est ton ami. Mais c'est quelqu'un qui en permanence veut divorcer. Divorcer, c'est-à-dire que quoi? Ce n'est pas nécessairement prononcer le mot divorce, c'est penser séparation. Pourquoi autant de femmes ont développé cette habitude que dès qu'il y a un problème, au lieu de réfléchir sur comment résoudre le problème, elles pensent d'abord à la séparation et elles sont déjà en train d'émettre des malédictions et de produire un tas de mauvaises pensées relatives au fait que de toute façon, il faut gâter tout ça. J'ai quelque chose à vous dire. Il faut faire très attention. Pendant des millénaires, les femmes africaines avaient la réputation de toujours défendre leur foyer. Quel que soit ce qui se passait, elles l'avaient d'abord comme réflexe premier. Pendant des millénaires, comment protéger mon foyer? Quel que soit ce qui se passait, elles pensent d'abord. Vous pensez que c'était pour rien? Vous pensez que ça vient seulement de la culture, mais ça vient de Dieu. La femme doit d'abord avoir comme réflexe comment protéger son foyer. Quelles sont ces femmes qui vont amener leur foyer dehors? Elles ont des copines chez lesquelles elles ont des choses à dire. Elles ont souvent leurs mères qui sont les conseillères toxiques. Leurs sœurs qui sont les conseillères toxiques. Les cousines qui sont les conseillères toxiques. Les copines qui sont les conseillères toxiques. Et qui elles-mêmes, quand tu vas me regarder leur situation, sont loin d'être dans le schéma de ce qui peut permettre un jour de construire un mariage épanoui. Regardez la complexité de ce que je suis en train de vous décrire dans une famille recomposée. Et qu'on ajoute à cela qu'une femme soit querelleuse. qu'elle soit insoumise de manière quasi automatique. Que quand tu lui donnes une instruction, elle dit que, ah, il ne fallait pas me parler comme ça. Tu lui fais une remarque, elle te dit que non, vraiment, tu m'as mal parlé. Une remarque. C'est-à-dire que parfois, tu rentres comme ça, tu dis que non, peut-être que. Non, il faut que je m'arrête quand même pour rentrer voir. Je lui ai dit quoi? Tu arrives là, tu regardes que, mais tu lui as seulement dit que, mes chéris, il ne faut pas laisser mes chaussures à cet endroit. Toi-même, tu sais que quand tu les laisses, là, l'eau va venir salir. Tu vois, elle te boude pendant 24 heures. 24 heures passent, tu crois que c'est fini. 48 heures, le boudage continue. Juste à ce que tu lèves seulement les yeux au ciel pour dire que, Père éternel, moi je crois en Dieu. Viens au secours, pardon, c'est grave ici. J'ai essayé de faire le tour de mes péchés, je n'ai pas compris. Où est le problème? Il y en a d'autres, tu peux même lui dire que, mais franchement, il faut que tu apprennes à lire, hein. Pourquoi tu ne lis pas? Lis souvent ici. Pourquoi tu as dit que. Parce que tu as fait l'école plus que moi. Hein? Comme tu as fait l'école plus que moi, tu veux dire que moi je suis analphabète. Que tu as dit seulement une chose. Tu n'as pas développé. Hein? C'était extrêmement précis et short. Je dis ceci. Pendant que je dis aux hommes, je ne peux pas vous louper. Vous allez monter, descendre, vous allez me trouver sur la démonstration là. Je dis que vous allez apprendre à supporter vos femmes. Ce sont les bébés, ce sont les enfants à éduquer. Je dis aux femmes que la partie où la parole de Dieu dit que femmes soyez soumises à vos maris et où la parole de Dieu dit que l'homme n'aime pas les femmes querelleuses, ce n'est pas l'ornement dans la parole de Dieu. Si maintenant vous avez l'enfant qui vous manipule, fait la guerre à l'autre, vous n'avez même pas le minimum d'amitié qui vous permet de rester ensemble. Vous allez construire quel foyer et où? Comment? Sous quelles conditions? Vous allez être des jouets pour les démons. Et pas seulement pour les démons. Vous allez être des jouets pour les émotions. Je vous envoie à l'enseignement sur le thème gestion des émotions et marche avec Jésus-Christ. Maintenant, il y a quelque chose d'autre que je ne peux pas manquer de relever. Les femmes. N'avez-vous pas suivi l'enseignement sur le thème, le secret entre Dieu et la femme, le pouvoir de la femme? Quelles sont ces femmes qui disent qu'elles vivent en Jésus-Christ en oubliant qu'elles ont Dieu comme confident, qui veulent toujours tout saccager dès l'introduction? J'ai une information pour vous. Quand vous passez le temps à traiter l'homme parce que vous pensez que lui n'a pas le droit de vous dire n'importe quoi, il ne doit pas vous parler n'importe comment, mais vous avez le droit. Quand vous faites ça, vous l'affectez et vous finissez par l'infecter. La femme est parfois introvertie, mais catastrophiquement explosive. Mais l'homme aussi peut être introverti. Et pour lui, là, quand ça arrive, il agit. Ce n'est pas qu'il bavarde, parce que la femme, ou c'est la poule qui caquette, ou je ne sais pas. Elle va te sortir tout. Et tout ce qu'il ne fallait pas sortir. Quand vous commencez à développer une habitude à dire de mauvaises choses à un homme, si vous avez la grâce que c'est un vieillard qui n'a plus la force, tant mieux. Mais s'il est jeune, attention, ça se passe aussi en lui. Les mauvaises paroles que vous émettez vis-à-vis d'un homme l'affectent, affectent sa motivation, affectent la perception qu'il a de vous et affectent le mariage dans lequel vous êtes. Et si vous avez affaire à un homme qui est très rationnel, vous n'allez pas vite voir le problème. Parce qu'il peut ne même pas changer de comportement. Or, intimement, son comportement a changé. Je dis aujourd'hui, avec la même fermeté que j'ai vis-à-vis des hommes, en leur disant qu'ils vont seulement apprendre à aimer les femmes conformément à la parole de Dieu, parce qu'ils doivent obéir. Je dis aujourd'hui aux femmes qu'il faut apprendre à mesurer ce que vous dites aux hommes. Si vous sentez que ce que vous allez dire là, c'est du poison, fermez la bouche. Fermez la bouche. La parole de Dieu dit qu'il faut tourner la langue 7 fois avant de parler. Tourner la langue là, c'est que Dieu a prévu le broyeur du poison verbal dans ton corps. Et tu tournes la langue, à tout temps, il va diluer ça. Ça va se diluer. Ça va disparaître. Au lieu que tu sortes quelque chose, ça va lui faire mal au cœur pendant 2 jours. Toi, tu ne seras pas au courant qu'il a mal au cœur. Entre-temps, il plie les doigts depuis un mois. Si vous refusez aux autres certains droits, vous ne pouvez pas vous-même vous les attribuer. Vous n'avez pas le droit d'estimer que vous pouvez dire tout et n'importe quoi à votre conjoint. Vous avez déjà reçu d'autres enseignements où je vous ai dit qu'il faut faire très attention à ce que vous dites à un enfant. On ne parle pas aux enfants n'importe comment. Les mauvaises paroles adressées vis-à-vis des enfants sont plus dangereuses et plus destructrices que le fouet. Ça laisse des marques. Donc, à ce niveau, j'insiste sur un compartiment. Apprenez à poser les problèmes dans le foyer, pas pour accuser, mais pour dialoguer. Je répète, apprenez à poser le problème dans le foyer, pas pour accuser, mais pour dialoguer. Pour dialoguer afin que l'autre sache que telle chose ne vous a pas plu et que véritablement ce serait bien que ça change. Parce que vous souhaiteriez que telle chose n'arrive pas. Si vous êtes des personnes qui sont en permanence dans la propension à divorcer, comme beaucoup de femmes, deux temps, trois, moi je vais partir, moi je vais rentrer chez mes parents. Si on vous laissait même faire, vous croyez que vous allez trouver mieux ailleurs? Est-ce que vous savez ce que ça fait dans l'esprit d'un homme qui s'investit pour vous? Parce qu'il y a des hommes qui s'investissent pour leur femme. Et que chaque fois qu'il y a un petit dysfonctionnement, même pas seulement dysfonctionnement. Parfois, il y a souvent des quiproquos, il y a des lapsus. Je le suis sincère. Hein? C'est-à-dire que quand on analyse, c'est un quiproquo. C'est-à-dire que tu as dit une chose, elle a compris autre chose. Ou des malentendus. Au lieu que le malentendu soit évacué rapidement, c'est déjà devenu un problème. Elle a dormi avec le cœur noir, elle s'est réveillée avec le cœur rouge. Donc, les deux couleurs-là, aucune n'est de quoi. N'est une couleur de l'Esprit Saint. Quand elle dormait, le cœur était noir. Au réveil, le cœur est rouge. Rouge, c'est la colère. Je vous parle le langage spirituel. Quand quelqu'un est en colère, vous voyez son cœur. L'Esprit de Dieu vous montre que son cœur est rouge. Il est noir de mauvaises pensées. Je vous ai donné un enseignement où je vous dis clairement que la parole de Dieu est totalement en désaccord avec le fait qu'un être humain dorme avec la colère. Et je vous ai expliqué déjà dans cet enseignement-là, que quand vous dormez avec la colère, vous ouvrez la porte au démon. Je passe. Le management de la famille recomposée est un management qui est complexe. Vous devez donc apprendre à dialoguer, à installer des niveaux de dialogue qui permettent, un, de sécuriser votre complicité, deux, d'évaluer avec pertinence les menaces. Je vais donner un exemple parce que je voulais le donner depuis un moment, mais ça ne sortait pas parce qu'il fallait d'abord balayer d'autres problématiques. Ton enfant te dit que ton mari l'a tapé. Vas-tu croire ton enfant directement ou vas-tu demander à ton mari posément, sans l'accuser? Que s'est-il passé? Parce que si tu viens demander à ton mari, qu'est-ce que tu as tapé mon enfant? Ce n'est pas une bonne question. La question étant mal posée, la réponse peut être mauvaise. Si l'homme n'est pas tempéré, il ne te donnera pas la bonne réponse. Il y a des hommes ici dehors qui sont des femmelettes. Ta femme a tapé sur ton enfant. Tu viens te comporter vis-à-vis de la femme exactement comme une femme se comporterait vis-à-vis d'une copine ou d'une coépouse. Hein? Pourquoi tu as tapé ma fille? Pourquoi tu as tapé ma fille? Ce n'est pas comme ça qu'on fait. C'est quand elle est dans tes bras, quand elle est assise à côté de toi, dans le calme le plus total, que tu lui demandes que qu'est-ce qui s'est passé avec l'enfant. J'ai vu tes choses, je voudrais juste que tu m'expliques. Tu vas l'écouter. Si ta femme est une menteuse ou ton mari est un menteur, ça c'est une autre affaire. L'Esprit Saint va venir te dire la vérité. Mais il ne faudrait pas que tu arrives dans un stade, un cap où, quand tu écoutes ton enfant que tu as amené dans le foyer, tu écoutes ton mari ou bien ta femme, tu penches vers l'enfant sans même chercher à savoir si l'enfant a menti ou a dit la vérité. Parce que quoi? Quand vous vous connaissez déjà, tu peux savoir si l'enfant a menti. Un dicton dit que la vérité sort toujours de la bouche des enfants. Mais l'expérience du 20e et du 21e siècle nous ont montré que les enfants mentent de plus en plus tôt. Donc, on est obligé d'être prudent et mesuré sur les déclarations des enfants. Il est très important que vous compreniez cette affaire. Vous devez protéger votre foyer contre l'autre géniteur qui n'est pas dans la maison. Vous devez protéger votre foyer contre les ex. Vous devez protéger votre foyer contre l'enfant qui pourrait venir défendre ses intérêts contre le foyer, parce que lui défend son territoire. Et vous devez protéger votre foyer contre toutes les formes de manipulation mentale, manipulation d'ordre matériel, mental et d'ordre spirituel, mental. Parce que si le désordre et la mésentente s'installent entre vous, même les démons vont s'y mettre. Vous allez commencer à avoir des visions tordues qui ne viennent pas de Dieu, que les démons vous fabriquent les visions. Et si vous n'avez pas la grâce de pouvoir attester une vision directement à l'Esprit Saint, vous allez commencer à dire que Dieu lui-même est en train de préparer le divorce là. Dieu lui-même m'a montré que l'homme, ce n'est pas bien. Le seul fait que vous ne vous entendiez pas avec votre père, votre mère, les démons sont capables d'utiliser ça en vision, en vous projetant des images. Il y a beaucoup d'entités sur cette planète qui sont capables de projeter des images à l'être humain en vision, en temps d'éveil comme en temps de sommeil. Il y en a beaucoup qui sont capables de vous projeter des pensées, en temps d'éveil comme en temps de sommeil. Si vous êtes perturbé, les faiblesses de votre mental, vos émotions seront utilisées contre vous. La question de la famille recomposée est très complexe. Je vous ai montré l'axe de l'enfant vis-à-vis de son géniteur qui n'est pas dans le foyer, dans l'autre, de l'enfant vis-à-vis de son géniteur qui est dans le foyer, de l'enfant vis-à-vis de l'autre conjoint qui n'est pas son géniteur. C'est un axe relationnel qu'il faut analyser. De vous, vis-à-vis du géniteur de l'enfant qui n'est pas dans le foyer. Et maintenant, les axes relationnels conflictuels, possibles, potentiels, entre les enfants entre eux, qui sont l'un l'autre, avec des parents, avec l'autre parent qui n'est pas leur géniteur. Rappelez-vous de quelque chose dans cette affaire. Vous devez faire un, être complice, parce que ce qui est important, non seulement c'est la protection de votre foyer, mais c'est l'éducation de cet enfant. On vous dit que l'enfant est le père de l'homme. De façon prosaïque, c'est-à-dire que c'est l'éducation que l'enfant reçoit qui permet qu'il soit un homme. Ce qu'on fait d'un enfant fait de lui un homme. C'est ce qu'il a reçu. Éducation, éduquer, conduire vers. Comment a-t-on nourri un enfant? De la façon dont on l'a nourri, il est l'adulte que l'on voit. Parce que vous êtes de Christ, parce que vous êtes des chrétiens, parce que vous êtes des croyants, parce que vous êtes des adorateurs de Jésus-Christ, vous devez, dans toutes les étapes que je vous ai exprimées et expliquées, être toujours en train de consulter l'Esprit Saint, directement, pour ceux qui en ont la capacité, ou indirectement, à travers vos pères et mères spirituels, ou encore à travers vos directeurs spirituels. C'est extrêmement important. Parce que l'Esprit Saint est capable de vous dire la chose juste dans le dossier. La chose juste, c'est-à-dire quoi? La direction à prendre pour régler le problème. L'Esprit Saint ne vous parlera pas toujours de tout un problème. Il vous dira ce qu'il faut faire. Parce que lui connaît les lois, les principes, les règles et les normes. Il vous dira ce qu'il faut faire. Ça ne veut pas dire que si Dieu te demande de demander pardon quelque part, ça veut dire nécessairement que tu avais tort. Ça veut dire que l'application de la loi de Dieu à cet endroit demande de demander pardon parce que c'est la meilleure manière d'arranger le problème. Il y a des situations très complexes et les contextes évoluent. Il y a des contextes dans lesquels, si tu veux éduquer une femme en insistant sur un point, tant que les blessures de l'âme n'ont pas été évacuées, tu vas insister à l'endroit là, tu parles pour toi seul. Il faut d'abord évacuer les blessures qui ont créé des infirmités. Et ces infirmités, quand elles sont réglées par l'Esprit Saint, alors, les enseignements que tu voulais lui donner vont entrer. Il y a des hommes qui ont été traumatisés par leur mère. Il sait que la femme est une manipulatrice. Sa mère est une grande manipulatrice. Donc, même toutes les copines qu'il a eues jusqu'à la femme que tu es. Quand tu parles comme ça, il se demande toujours où est le piège. Il y a des hommes qui ont grandi en sachant que leur femme trompait leur père. C'est un traumatisme. Tu dois le traiter. Et tu ne lui montres pas que tu es une personne fiable, quelqu'un qui a vécu au milieu des bandits. Sa mère était une dribbleuse qui dépassait tous les grands dribbleurs en football. Et elle a même bien éduqué ses soeurs. Ses soeurs ont commencé la prostitution avant l'âge de 15 ans. Si toi, sa femme, tu ne lui montres pas autre chose et tu ne demandes pas l'aide de l'Esprit Saint, le dossier peut être très compliqué. Hein? C'est pourquoi vous devez toujours prier, je dis toujours, en demandant à l'Esprit Saint le discernement et le discernement des esprits. Un, cette prière doit être perpétuelle, elle doit durer. Dans chaque situation, demandez toujours à l'Esprit Saint de vous donner le discernement. Dieu parle d'une manière ou d'une autre, il vous répondra. C'est pourquoi encore, vous devez toujours demander, parce que beaucoup d'entre vous ont des histoires compliquées. Vous devez toujours demander à Dieu de guérir en vous les blessures de l'âme. Vous ne pouvez pas maltraiter votre conjoint pour des choses qu'il n'a pas faites. Vous avez vécu à Paul, vous avez épousé Pierre, vous maltraitez Pierre alors qu'il n'est pas Paul. Ce n'est pas juste. Il y a des femmes qui sont toujours sur la défensive. Dès que tu commences à lui parler, puisqu'elle a toujours su que depuis la maison, quand on lui parle, c'est pour lui faire des reproches. Il y avait brutalité. Quand on lui fait un reproche, c'est même pour l'humilier. Elle ne sait pas qu'on peut faire des reproches et c'est par amour. Le jour où tu viens seulement faire un reproche, elle fait un transfert sur toi brutalement. Elle t'insulte comme si tu étais sa mère ou son père avec qui elle ne s'entendait pas pendant 20 ans. Voilà alors tes problèmes qui ont commencé. Toi, tu ne connais pas l'histoire. On ne t'a pas dit le passé. Les transferts en psychologie sont terribles. Et ils sont inévitables. Il y a plusieurs formes de transfert. Il y a les transferts positifs, il y a les transferts négatifs. Donc, vous devez avoir du recul. Demandez toujours à l'Esprit Saint d'effacer en vous les blessures de l'âme. Vous ne pouvez pas gérer un foyer avec les blessures de l'âme qui sont béantes. Ça va vous faire très mal. Et ça va vous faire beaucoup de mal. On pourrait variabiliser, complexifier, approfondir cet enseignement de plein de façons. Mais je vous donne d'abord ces éléments pour que vous rendiez compte qu'il y a une base qu'il faut construire. Il y a des priorités. Les femmes qui sont toujours en train de dire que dès qu'il y a un problème, je veux partir. Elle pense que l'homme ne peut pas aussi dire ça. L'homme aussi ne peut pas mettre fin à la relation. Ou bien il n'en a pas le pouvoir, ou bien Dieu lui en a retiré le pouvoir. Vous devez avoir des automatismes pour sauver la vie, protéger la vie. Pour sauver votre foyer, protéger le foyer. Pour sauver vos enfants, protéger les enfants. Il n'est pas avantageux pour vous que votre enfant vous manipule. Il n'est pas avantageux pour vous que votre enfant isole l'autre conjoint. Au contraire, vous devriez parler, dialoguer, agir pour que votre enfant accepte l'autre conjoint comme étant sa mère, accepte l'autre conjoint comme étant son père. Il y va de l'équilibre de votre foyer. Pour ceux qui sont dans le service à Dieu, Les femmes des serviteurs de Dieu doivent faire très, très, très attention quand leur mari leur parle souvent. Dieu est libre de faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Dieu peut te parler à travers ton mari, même quand il est en plein sommeil, que tu te dis quand, oh, il a sommeil. La parole qui sort là n'est pas la sienne, c'est Dieu qui t'a parlé. Si vous êtes aussi réactive, explosive, donc vous allez manquer de respect à l'Esprit Saint. Vous pensez qu'il va croiser les bras et dire que, ah, elle ne savait pas que c'était moi. Il va utiliser la loi, que c'est comment? Les gens, ils ne lisent pas la parole que je leur ai donnée. Cet enseignement est très complexe et nous pourrions l'approfondir de beaucoup de façons, le développer à beaucoup de niveaux. Mais je préfère déjà que vous vous arrêtiez à cet endroit parce que pourquoi est-ce que je vous donne cet enseignement? C'est parce que je tiens à ce que vous soyez heureux. Lorsque je vous mets avec une femme, lorsque je vous mets avec un homme, ce n'est pas pour que vous soyez malheureux. La femme répond aux critères qui sont importants selon Jésus-Christ. L'homme répond aux critères qui sont importants selon Jésus-Christ. Mais le Christ tient à ce que dans le foyer que vous avez construit, parce que c'est vous qui vivez avec la femme qu'il vous a donnée, parce que c'est vous qui vivez avec l'homme qu'il vous a donné. Le Christ tient à ce que vous soyez heureux, absolument heureux. Je vais revenir de manière approfondie sur cette question. Parce que bon, beaucoup de personnes n'ont pas conscience de cela. Et il est extrêmement important. Il est extrêmement important, n'est-ce pas, que les uns et les autres soient confortables dans cette question. Et je pense même qu'il est très important de développer cette question parce que beaucoup de personnes qui sont des chrétiens n'ont pas conscience de l'angle de vue selon lequel Dieu voit la chose. J'étais en train de dire quelque chose. J'étais en train de dire quelque chose qui me semble extrêmement important. J'étais en train de dire quelque chose qui est fondamental et que beaucoup de chrétiens ignorent. Lorsque Dieu vous met avec un conjoint ou une conjointe, il a son gain dans cette affaire. Il gagne parce que vous le servez. Il vous donne quelqu'un qui doit vous compléter. Mais quand il vous met avec la personne, ce n'est pas lui qui vit avec cette personne. Même s'il y a un schéma qui veut que Jésus-Christ soit l'époux et nous l'épouse, il y a quand même une réalité matérielle et factuelle qu'il faut manager. C'est que tu as une femme que Dieu t'a donnée, tu as un mari que Dieu t'a donné, et Dieu tient à ce qu'il t'a donné soit épanouissant pour toi. C'est pourquoi, et il est temps d'enseigner cela aujourd'hui sur cette planète, quand Dieu t'a donné un mari ou t'a donné une femme, il assume son choix. C'est pourquoi en permanence, il vient en soutien, il vient en appui, il vient donner des conseils, il vient donner des orientations, il vient faire des propositions, il vient guérir les maladies, il enlève les maux, etc. Dieu vous met ensemble parce que c'est par amour. C'est par amour qu'il vous recrute dans son œuvre, c'est par amour qu'il vous sort des ténèbres, c'est par amour qu'il vous donne le mariage, c'est par amour qu'il vous donne des enfants, c'est par amour qu'il vous donne l'emploi. C'est par amour qu'il vous donne des grâces, ces bénédictions. Vous devez le comprendre. Dieu assume ses choix. Mais si Dieu assume ses choix, vous-même assumez votre part et ne soyez pas des gâteurs. Il manque souvent à certains de dire que vraiment, là où Dieu m'a, moi-même, il m'a piégé ce matin. Tous les grands prophètes, ton père spirituel, les prophétesses t'ont dit que c'est Dieu. Voilà ta femme. Voilà ton mari. Tu es en Jésus-Christ. Parce que tu n'as pas compris que Dieu assume ses choix. Un, tu ne sais pas compter sur lui. Parce que tu n'as pas compris qu'il t'a mis à l'endroit là pour ton bonheur. Deux, tu ne veux pas toi-même travailler à renforcer ce que Dieu t'a donné. Dieu a donné, c'est bon. C'est bon, ça va. Ce n'est pas vrai. Soyez juste. Soyez juste. Tu assumes en sachant que Dieu n'aime pas les femmes querelleuses. Tu assumes en sachant que Dieu dit que femmes, soyez soumises à vos maris. Tu assumes en sachant que Dieu a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Tu assumes en sachant que la femme a en elle un pouvoir déposé en Dieu. C'est qu'elle a la capacité de chuchoter à l'oreille de Dieu. La femme, parce qu'elle fonctionne avec son cœur, n'a pas besoin de chercher Dieu. Elle utilise l'organe où Dieu habite. Lorsque la parole de Dieu vous dit que le corps de l'homme est le temple de Dieu, l'endroit où Dieu habite en vous, c'est le cœur. Vous imaginez donc ce que ça signifie quand vous avez le cœur noir. Quand vous avez le cœur noir ou rouge, qu'est-ce que ça signifie? Vous dites à Dieu de déménager. Dieu ne discute pas sa place avec quelqu'un. Donc, quand tu commences à avoir les mauvaises pensées, le mauvais cœur, etc., donc tu ne veux pas que Dieu habite l'endroit qui lui est réservé dans ton cœur, en toi. Vous avez reçu aujourd'hui des clés importantes. Parce qu'il ne sert à rien de vous déverser des versets bibliques. On est dans l'ingénierie. On est dans l'ingénierie familiale. Il y a un peu de psychologie. Etc. Contribuez à matérialiser le bonheur que Dieu vous a choisi à travers le conjoint et la conjointe que Dieu vous a donné. Même s'il est venu avec les enfants, c'est l'option que Dieu a choisie pour toi. Et il assume l'option-là. Il est prêt à vous fabriquer les solutions. Je dis fabriquer, c'est-à-dire que quoi? Si la solution n'existe même pas, il crée pour vous, par amour. Faites-lui confiance, il ne s'est pas trompé. Il faut supporter, comme Dieu vous supporte, vous aussi supportez ses choix et supportez le fait que comme il est votre Père, vous devez avoir le réflexe de contribuer à ce que lui-même soit heureux. Vous croyez que Dieu se sent comment? Quand dans un foyer que lui l'a constitué, vous ne vous entendez pas. Est-ce que c'est son but? Voilà des questions de fond qu'il faut vous poser. Il y a des gens quand ils veulent faire le sagat-sagat, surtout les femmes, mais elles se vantent de la manière dont elles sont énervées. Elle est grande parce qu'elle est capable de gâter. Gâter. C'est ça qu'on t'a demandé de faire là-bas. Il faut voir comment elles sont fières de la capacité à gâter. Je l'ai insulté jusqu'à... C'est ta médaille. Je vous invite à méditer profondément 1 Corinthiens 13, à vous rappeler que le Père éternel a conçu l'être humain par amour. Et il a gardé vivant par amour. Parce qu'après le péché originel, Dieu aurait pu dire que bon, moi, l'affaire là commence à sentir mauvais. On a peine à apprendre, on a commencé que ça s'est déjà gâté. Donc, mieux, je mets fin à cette histoire. Dieu a envoyé les prophètes par amour. Dieu a conçu, et ça vous devez le savoir, Dieu a institué le mariage par amour. Quand vous voyez la raison pour laquelle Ève a été fabriquée, c'était par amour pour Adam. Dieu a pensé que l'homme doit se reproduire spirituellement et matériellement par amour. Spirituellement, c'est-à-dire que quoi? Quand vous êtes des enfants de Dieu, vous devez prêcher la parole de Dieu parce que c'est comme ça que de plus en plus, vous aussi, vous vous reproduisez. Vous avez de plus en plus de fils et de filles spirituels. C'est la reproduction. Ça, c'est l'entendement que beaucoup n'ont pas de la parole de Dieu sur cette question. Et matériellement, parce que l'homme est fait de chair, d'âme et d'esprit. Dieu vous a mis ensemble par amour. Par amour aussi, porter les choix de Dieu, supporter les joies des choix de Dieu, contribuer à votre niveau, à ce que le foyer dans lequel vous êtes soit une construction épanouissante, heureuse pour tout le monde. Travaillez aussi, Dieu est un travailleur. Vous aussi travaillez à votre niveau. La parole de Dieu ne dit-elle pas que vous êtes des dieux? Vous aussi, vous avez le pouvoir de créer le bonheur. Utilisez votre intelligence, votre âme, votre esprit, votre corps pour créer le bonheur là où vous êtes. Quand vous avez la certitude que c'est Dieu qui vous a mis quelque part, supportez, portez, priez, intercédez. Dialoguer avec l'autre, avec Dieu. Et n'oubliez jamais que l'Esprit Saint, c'est Dieu disponible. Il est disponible en permanence. Toujours. De jour comme de nuit. En temps d'éveil comme en temps de sommeil. Priez toujours contre les gens qui veulent votre division. Je vous préviens. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans la marche avec Dieu en ignorant qu'il y a des gens qui prient, qui font des incantations, qui font des rituels, qui signent des pactes, des alliances, font des prophéties négatives pour que vous divorciez. Si vous n'êtes pas aussi capable d'intégrer ces compartiments, vous allez être des jouets perpétuels. La relation, la construction du foyer, le maintien du foyer, du mariage n'est pas seulement là où je vous ai expliqué. Je suis en train de conclure. C'est pourquoi je sors par ce compartiment que vous semblez souvent ignorer. C'est ceux qui font des incantations pour que votre foyer se gâte. Ou ceux qui peuvent vous attaquer consciemment, de manière ésotérique, par les enfants. Posséder un enfant pour gâter votre foyer. Donc vous devez toujours aussi, c'est notre recommandation, entre tout ce que j'ai eu à dire, demander le discernement des esprits, demander la guérison des blessures de l'âme, demander toujours la protection de votre foyer et l'anéantissement de tous les ennemis de votre mariage, toujours. Et beaucoup de ceux qui combattent votre mariage sont très souvent les membres de vos familles, frères, sœurs, pères, oncles, mères, tantes, grands-pères, grands-mères. Et les anciennes relations, comme je le disais tout à l'heure. Parce que parfois, un ex va voir le marabout. Il t'attache là-bas avec un sous-vêtement qu'il avait pris. Ou une ex. D'autres même t'attirent dans un piège pour utiliser ton sperme. Soyez très, très prudent. Quand vous avez la grâce d'être déjà dans un mariage, faites une conclusion et fermez la route au passé dangereux. Je bénis l'Éternel parce qu'il nous a permis d'avoir cet enseignement aujourd'hui qui va sauver des vies, qui sauve déjà des vies. Je bénis l'Éternel parce qu'il y a des personnes comme vous qui sont réceptives à la parole de Dieu. Je bénis l'Éternel parce qu'il y a des personnes comme vous sur lesquelles Jésus-Christ compte pour changer l'histoire de l'humanité. Je bénis l'Éternel parce qu'il a investi à des niveaux totalement incroyables pour racheter l'être humain, sortir les humains de la captivité et donner plus que jamais de l'amour aux hommes. Je bénis l'Éternel parce que le Christ est mort et ressuscité et a donné accès désormais à Dieu, a reconstruit le chemin, la voie. Je bénis l'Éternel parce que il a rendu l'Esprit Saint disponible, qu'aujourd'hui, on peut lui parler en tout moment. On n'a plus besoin d'aller chercher un prophète. On a juste besoin d'être sûr que c'est Dieu. Et combattez toujours l'esprit de divination et tous les esprits qui peuvent vous manipuler. Je bénis l'Éternel parce que il réfléchit tous les jours que lui l'a créé pour voir comment rendre ses enfants heureux. Soyez abondamment bénis. Que la prospérité et la fertilité du Père éternel soient votre partage. Que la stabilité de l'Esprit Saint et sa puissance soient votre partage. Que l'autorité du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Que la joie de l'Esprit Saint soit votre partage. Que le bonheur conjugal soit votre partage. Que la joie et la puissance dans votre foyer, dans toutes vos activités, soient votre partage. Et que le Seigneur utilise votre vie pour démontrer, même aux incrédules, aux aveugles, aux sourds, qu'il est un Dieu vivant, agissant et aimant.